Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Philippe, avec Christophe et Francky à la technique. Bonjour Christophe, bonjour. Bienvenue et merci d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio, en FM, Web Radio, DAB+, ou sur notre appli. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez fidèlement à chaque émission. Vous vous intéressez au métier de la chimie et vous avez besoin d'aide pour orienter vos recherches. Aujourd'hui, mardi 7 février, découvrez avec nous ce nouveau numéro de l'économie en direct consacré à la 20e édition du Village de la Chimie, l'événement incontournable pour promouvoir ce secteur, ses métiers, ses formations et qui se tiendra cette année les 10 et 11 février à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Sous un format hybride, présentiel, distanciel, l'ensemble des acteurs de la chimie seront à nouveau réunis lors de cette grande fête de la chimie, entreprises, écoles et universités, enseignants et scientifiques. Avec nous ce matin pour en parler, Gilles Lemaire. Bonjour Gilles.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous accueillir pour présenter cette 20e édition du Village de la Chimie. Délégué général de France Chimie Île-de-France, vous portez depuis 2003 cet événement avec toujours autant d'enthousiasme et une conviction sans faille pour contribuer à valoriser tous les métiers de ce secteur si vaste et si riche. Vous nous présenterez cette 20e édition et nous avons hâte d'en connaître toutes les nouveautés. À vos côtés, Pierre Charrier. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Ravi également de vous accueillir à notre antenne. Vous êtes le directeur général de Diverchim CDMO, un laboratoire pharmaceutique, leader français de la synthèse organique de molécules originales et basé à Roissy en France. Avec vous, vous nous expliquerez ce qu'est la synthèse organique de molécules originales. Et avec vous, nous parlerons de rupture de médicaments à l'hôpital, de réindustrialisation et bien sûr de votre présence au Village de la Chimie. À vos côtés, le colonel Philippe Davadi. Bonjour colonel.
Bonjour madame.
Merci pour votre présence dans nos studios. Colonel de gendarmerie, vous êtes le directeur de l'enseignement et de la recherche du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, dont l'unité forensique est reconnue par les praticiens et universitaires comme étant au top niveau mondial. Dans cette unité, une formation inédite, un MBA dédié à la science forensique vient de voir le jour. Vous nous rappellerez déjà en quoi consiste votre mission et puis ce qu'est la science forensique et vous nous direz pourquoi le PJGN a souhaité créer une telle formation unique au monde. Gabriel Tofani, président de Adionix, une start-up qui produit du lithium vert, également invité dans l'émission, mais qui a renoncé à venir jusqu'à Enghien compte tenu de son éloignement et des problèmes de grève. Nous établirons avec lui, aux alentours de 10h, une liaison téléphonique et il pourra ainsi nous présenter son entreprise et nous dire pourquoi Adionix sera présente également au Village de la Chimie. Bienvenue et merci d'être les invités en direct de ce nouveau numéro de l'économie en direct, spécial Village de la Chimie. Une émission que vous retrouverez en podcast sur notre site idfmradio.fr. Avant de vous donner la parole et de retrouver notre chronique du jour, je vous lis un communiqué de presse en faveur de l'hôpital de Pontoise. Les Jokers se mobilisent pour l'hôpital de Pontoise. L'équipe de hockey sur glace de Cergy Pontoise s'investit pour soutenir des causes d'intérêt général. Sensible aux questions de santé publique, les Jokers organisent un dîner caritatif au profit du fonds de dotation de l'hôpital de Pontoise le jeudi 9 février à 20h. Cette soirée se déroulera au restaurant L'Agora, situé à Cergy-Saint-Christophe et tout proche de la patinoire Arenaïs, le QG de l'équipe Cergy Pontaine. Au-delà de la performance sportive, les Jokers démontrent un engagement sociétal fort avec la volonté d'être utile à la vie de la cité. L'objectif est de récolter un maximum de fonds pour aider l'hôpital de Pontoise à financer de nouveaux projets afin d'améliorer la prise en charge et le confort des patients et de leurs familles. Si vous avez envie de contribuer et d'apporter votre soutien au fonds de dotation de l'hôpital de Pontoise, réservez dès à présent votre place pour le repas caritatif organisé donc à l'Agora, 100€ hors taxe par personne, dans une ambiance jazzy et cosy sur fond de magie. Voilà, toutes les informations et réservations se font via le lien les Jokers www.lesjokers.net, dîner caritatif. Voilà pour ce communiqué de presse. Et à présent,
peut-être que oui. IDFM 98 FM.
Présent pour la chronique du jour, restons dans un domaine qui s'appuie sur des réactions chimiques avec notre grand amateur de cuisine Bruno Vigoureux. Il faut le dire, chimiste malgré lui, mais gourmand et gourmet sans modération. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous. Oui, beaucoup plus gourmet que chimiste, j'en reconnais.
Alors, quelle recette allez-vous nous décrypter aujourd'hui ?
Bah, écoutez, une recette toute simple que j'adore et allez savoir pourquoi. Je ne l'avais plus faite depuis longtemps. Et là, elle est réapparue en cherchant dans mes cahiers, dans mes classeurs. Et pas plus tard que dimanche, bah je l'ai refaite et trouvée, une fois de plus, très savoureuse. Autre avantage, c'est une recette bon marché qui va, j'en suis sûr, étonner vos amis sans la moindre difficulté. On va faire une échine de porc aux épices. Vous allez voir comme c'est simple, vous n'allez pas en revenir. Pour cette recette, comptez 15 minutes de préparation, mais attention, il faut aussi compter 12 heures de marinade et 2 heures de cuisson. Il faut donc bien calculer son coût, et ce n'est pas un plat, vous l'avez compris, qui se fait au dernier moment. On va faire une recette pour 6 personnes. Et pour la réaliser, vous avez besoin de 1 kg d'échines de porc désossées. Allez, mettez même 1,5 kg, ça sera très bien. Ça, pour la désosser, vous demandez à votre charcutier de le faire, il s'en chargera sans problème. Mais s'il ne veut pas, bah vous changez de charcutier. Et il vous faut une orange, une cuillère à soupe de sucre roux, une cuillère à soupe de cumin en poudre, une cuillère à café de curcuma, une pincée de cannelle, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Allez, maintenant, on entre en cuisine. Alors, vous pressez l'orange et vous mettez son jus dans un plat creux. Vous ajoutez l'huile d'olive, les épices et le sucre en poudre. Vous salez, vous remuez bien et vous faites mariner les chines dans ce mélange pendant une douzaine d'heures au frais. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de plus simple. N'oubliez pas de retourner la viande plusieurs fois pour qu'elle soit bien parfumée, bien imprégnée de ses épices. Passez ce temps. Vous préchauffez le four à 150. Vous allez voir, c'est une cuisson lente, comme on dit. Vous égouttez les chines et vous la ficelez pour former un rôti. Mais ça, vous pouvez demander à votre charcutier de le faire dès le départ. Vous la posez dans un plat à four et vous enfournez pour 2 heures en l'arrosant régulièrement avec la marinade que vous avez mis préalablement de côté. C'est toujours aussi simple, non ? Ensuite, vous laissez reposer la viande une dizaine de minutes dans le four, qui est éteint, avant de la servir tranchée. Pour accompagner ce plat, vous pouvez faire soit des légumes sautés ou une semoule de couscous. Moi, je l'avais accompagné de pommes de terre cuites à l'eau dans laquelle j'avais mis un peu de curcuma. Vous allez voir, ça donne une belle couleur orangée à vos pommes de terre et c'est bien dans l'ambiance de ce plat. Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette recette, vous allez vous régaler, c'est donc simple, bon marché comme je l'ai précisé au début. Et n'hésitez pas à en prendre un morceau d'échine un peu plus gros, car ce rôti se mange aussi froid avec une salade de crudités. Et là encore, c'est excellent. Allez, au revoir, bon appétit à tous et à très bientôt.
Merci Bruno, voilà, comme tous les mardis, on a faim après votre passage.
Bon appétit.
Merci,
alors.
À la semaine prochaine.
Et
Bruno.
Bonne émission, ouais, la semaine prochaine.
Merci bien, au revoir.
Au revoir.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, jusqu'à 11h, notre spéciale 20e édition du Village de la Chimie, des sciences et de la nature et de la vie, avec à mes côtés Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Pierre Charrier, directeur général de Diverchim CDMO, Philippe Davadi, colonel de gendarmerie, directeur de l'enseignement et de la recherche du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Et dans quelques instants, Gabrielle Toffani, présidente de Adionix. Gilles le maire, encore une année de passé et nous voilà à nouveau réunis pour cette 20e édition du Village de la Chimie, des sciences, de la nature et de la vie. Un événement initié en 2003 par France Chimie Île-de-France avec le soutien du MEDEF Île-de-France et en partenariat avec l'éducation nationale afin de promouvoir auprès des jeunes les métiers de la chimie et les filières de formation, y compris par l'apprentissage. Un engagement pour l'emploi des jeunes et l'alternance qui n'a pas fléchi, Gilles, j'ai l'impression.
Absolument, Jacqueline. Un engagement qui est toujours aussi fort, un engagement pour l'alternance. Je le rappelle, cet engagement aujourd'hui au niveau national est de faire évoluer l'alternance à l'horizon 2025 de 30%. Et dès décembre 2022, on a relevé une évolution de 27%. Autrement dit, les entreprises de la chimie ont répondu présent à l'appel de notre fédération et s'est fortement engagé dans l'alternance qui, aujourd'hui, je le rappelle également, dans la chimie est une alternance de haut niveau, c'est-à-dire c'est une alternance à bac plus 2 et plus, ce qui nous distingue d'autres professions comme la métallurgie ou le bâtiment.
Alors comment se présente cette 20e édition du Village de la Chimie ?
Eh bien à ce jour, je dirais modestement, mais je dirais très bien, cette 20e édition, en effet, a sensibilisé près de 60 entreprises, 23 écoles et universités et 28 partenaires. Parmi les entreprises nouvelles, je citerai notamment Géodis, transporteur de produits, notamment de produits chimiques, EDF, EuroAPI, Motul, mais également les pompiers de la SDIS 77 et nos amis du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale présents à nos côtés. Parmi les partenaires, je veux citer la présence active du réseau des missions locales, oui, et de Pôle emploi. Nous aurons d'ailleurs à nos côtés, lors de l'inauguration, la directrice régionale de Pôle emploi. Je veux également souligner un point qui nous honore, c'est également l'intérêt qu'ont manifesté un grand nombre de personnalités, parmi lesquelles le président du Sénat, Gérard Larcher, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, et la vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de la formation professionnelle, Marido Achliman. Trois personnalités, je veux le souligner, qui sont engagées pour l'emploi des jeunes et l'alternance. Rappelons, s'agissant du président Larcher, que lui-même a été longtemps ministre du Travail et que déjà il a plaidé pour l'alternance.
Marido Achliman, qui était déjà présente l'année dernière pour l'inauguration, donc qui vous suit fidèlement.
Tout à fait.
Alors, l'année dernière, le Village de la Chimie avait eu lieu au lycée Pierre-Gilles de Gênes, l'ENCPB, l'École nationale de chimie, physique et biologie. Votre choix cette année s'est porté sur la Cité des sciences et de l'industrie. Pourquoi ce choix ?
Alors, l'an passé, vous l'avez rappelé, nous avons souhaité organiser cette importante manifestation menée en partenariat avec l'éducation nationale dans un grand lycée enseignant les métiers de la chimie, le ENCPB ou le lycée Pierre-Gilles de Gênes. Sa proviseure Nora Machuret était alors intervenue dans
Absolument.
Votre émission.
Oui, oui.
Cette année, pour cet anniversaire, hein, je le rappelle, 20e édition du village, il nous est apparu important de choisir un lieu particulièrement emblématique, la Cité des sciences et de l'industrie, pour souligner combien il est important d'initier le plus tôt possible les jeunes Français à la culture scientifique, garante de futures vocations à la chimie. Comme le souligne très justement le président Larcher dans notre lettre d'information, le catalyseur, nous ne réussirons pas la transition énergétique et environnementale sans la chimie.
Oui, c'est un atout décisif pour jouer ce rôle. Gilles Lemaire, chaque année, nous rappelons un petit peu des quelques chiffres qui illustrent ce que représente la chimie en Île-de-France. Je vous laisse peut-être nous rappeler ces chiffres encore cette année.
Alors, oui, quelques chiffres. La chimie en Île-de-France, c'est déjà un quart de la chimie en France, c'est-à-dire on représente les industriels de la chimie en Île-de-France pèsent 25% des effectifs totaux. Une chimie fortement féminisée. Hein, on a plus de 50% de collaboratrices dans les entreprises de la chimie qui occupent à 80-85%, 90% même, des emplois d'encadrement et de cadre. Donc des beaux emplois féminins proposés par les industriels. La chimie en Île-de-France, c'est aussi 40% de l'alternance de la branche, 40% à ramener aux 25% que j'évoquais, c'est une belle performance pour les entreprises de la chimie qui est composée en Île-de-France de 20% de poids lourds, mais surtout de 80% de très belles PME tournées vers l'innovation et ce qu'on appelle également aujourd'hui la chimie verte. Donc ça, c'est un point tout à fait caractéristique de la chimie en Île-de-France.
Gilles Lemaire, vous nous avez cité tout à l'heure le nom d'entreprises prestigieuses, hein, très connues. Donc cette année, vous vous félicitez d'une augmentation importante du nombre d'entreprises qui vont être présentes cette année. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, plusieurs raisons expliquent sans doute cette mobilisation des entreprises. En quelques mots, disons que notre constance dans la réalisation chaque année de cette manifestation a contribué à l'inscrire comme un rendez-vous annuel désormais incontournable pour l'emploi des jeunes et l'alternance dans la chimie. Je veux rappeler que dans les premières années, la connaissance des métiers et des formations paraissait une priorité. Désormais, depuis 2-3 ans, les offres d'emploi et de stage sont devenus un élément important au même titre que la connaissance des métiers et des formations. Je veux souligner que cette année, le village proposera plus de 2000 emplois dans la chimie sous toutes ses formes. Stages, CDD, CDI, contrats en alternance. Dernier point qu'il faut souligner, il est clair aussi pour expliquer la mobilisation, il est clair que les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises
aujourd'hui
constituent certainement un élément de mobilisation déterminé. Ça, c'est pas propre à la chimie, mais c'est tout à fait évident que aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter à tous les niveaux.
Et le village de la chimie, on peut dire que c'est devenu un véritable outil hein, pour promouvoir les métiers, les entreprises et les formations de la chimie.
Oui, c'est tout à fait, un outil majeur. Bien sûr, on a certainement des marches de progrès à franchir, mais il est certain que nous avons avec le village de la chimie permis une meilleure connaissance des métiers, des entreprises et des formations pétrochimie. Les quelques 150 000 jeunes et leurs parents qui, depuis 2003, ont parcouru les allées du village de la chimie, ont pu découvrir les infinies perspectives qu'offraient nos métiers portés, encore une fois, par l'innovation et tournés vers le développement durable.
Merci Gilles Lemaire, comme à chaque fois, vous défendez bien haut et fort ce village de la chimie. Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous aurais pas posées et que vous aimeriez que je vous pose?
Non, je crois qu'on a fait le tour. On a dit l'essentiel. Pour les jeunes en quête de sens, je veux leur dire que dans les métiers de la chimie, ils trouveront des opportunités fantastiques pour contribuer à relever les grands défis des transitions énergétiques, climatiques et environnementales.
Donc si des jeunes ou des parents nous écoutent aujourd'hui, ce matin, je vous pose également toujours la question, que faut-il faire pour s'inscrire? Il faut s'inscrire avant d'aller à ce salon?
C'est pas complètement nécessaire, mais oui. Effectivement, on a un site qui a été rénové et qui est rénové chaque année. On a dopé notre organisation. Donc c'est un site qui présente tous les acteurs présents, les entreprises, les écoles et universités et les partenaires. C'est un site qui présente toutes les conférences qui seront assurés pendant ces deux jours, 11 conférences passionnantes, et qui indique également les animations. On a un certain nombre d'animations très riches, alors soit sur la chimie proprement dite, soit sur l'aide au recrutement, ou pour postuler à des emplois, notamment je pense à un atelier assuré par Pôle emploi qui aidera les jeunes à présenter leur candidature. C'est toujours quelque chose d'important. Le site villagedelachimie.org proposera aux visiteurs une inscription. Ça permet effectivement d'avoir un lien avec les visiteurs potentiels, mais encore une fois, l'entrée est totalement libre. Dès 9h à la Cité des Sciences et de l'Industrie, vous serez accueillis chaleureusement.
Merci infiniment Gilles, merci déjà pour cette passion intacte que vous manifestez à soutenir cet événement en faveur de l'emploi des jeunes dans le domaine de la chimie. Un nouveau succès probablement en perspective. Et donc je rappellerai le villagedelachimie.org se retrouvera dans le podcast de la radio. Quelques notes de musique avant de poursuivre cette émission et le temps d'appeler Monsieur Tofani. À tout de suite.
Je sais, il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout, mais faut se forcer parfois. Lucie, dépêche-toi. Et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Thank you. d'assurer mes sentiments. J'ai en moi, oh, de plus en plus fort, des envies d'encore, tu sais, dont je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs, de refaire ce qui est plus à faire. Revenir en arrière, Lucie, Lucie, t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Lucie, j'ai fait le tour de tant d'histoires d'amour. J'ai bien, bien assez de courage tourner d'autres pages. Sache que le temps nous est compté, faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça.
Lucie Pascal Obispo, et c'est sur Radio IDFM. Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct avec notre spéciale 20e édition du Village de la Chimie, des sciences de la nature et de la vie, qui se tiendra dans 3 jours, les 10 et 11 février, à la Cité des sciences et de l'industrie. Pour en parler, je suis toujours en compagnie de Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Pierre Charrier, directeur général de Diverchim CDMO, Philippe Davadi, colonel de gendarmerie, directeur de l'enseignement et de la recherche du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, Gabriel Tofani, président de Adionix, qui est en ligne avec nous. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Ah, je vous entends pas très bien. Ah, oui, voilà, ça y est, je vous entends. Merci d'avoir pu nous rejoindre.
Améliorer.
Oui. C'est pas excellent, je vous entends. Allô?
Oui, vous m'entendez?
Oui, voilà, très bien. Merci, merci d'avoir pu nous rejoindre via le téléphone. Alors, Adionix, dont vous êtes le président, est une entreprise que Gilles Lemaire qualifie de très belle start-up. C'est une start-up qui, grâce à un procédé particulièrement innovant, produit du lithium vert, une matière aujourd'hui indispensable pour la fabrication des batteries des véhicules électroniques. Pouvez-vous nous dire... nous en dire plus sur Adionix, en quoi votre procédé technique est-il si innovant?
D'accord, donc Adionix est, comme vous l'avez très bien expliqué, une société des technologies. Donc nous avons une technologie qui nous est propre, qui est basée sur un procédé qui est unique pour l'extraction de lithium. Donc c'est un échange liquide-liquide qui permet d'extraire le lithium sans aucun type de pollution, et donc c'est pour ça qu'on parle d'une extraction verte. Et c'est une technologie qui s'applique surtout à une partie du monde où il y a des grandes réserves de lithium, c'est les saumures de salars, surtout dans les glaciers. Okay, donc
oui.
Vous avez des saumures comme ça, 90% sont en Amérique latine, il y en a un peu aux États-Unis, un peu en Chine, mais notre technologie aujourd'hui, on est focalisé sur l'extraction des saumures, des lithium dans les saumures, voilà.
Oui, et contrairement à une fausse rumeur, le lithium semble relativement abondant sur Terre.
Ah, il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup de réserves. Après, il faut pouvoir l'extraire de manière efficace, si vous voulez. Aujourd'hui, la méthode utilisée pour extraire le lithium dans les triangles du lithium en Amérique du Sud est par évaporation, d'accord ? Vous faites des énormes piscines, vous attendez 2 ans que l'eau s'évapore pour avoir le lithium, et vous perdez environ 60% du lithium. Donc, le rendement d'extraction aujourd'hui est d'environ 40%, vous perdez 60% de vos réserves. Notre procédé permet d'avoir un rendement supérieur à 90-95%, donc on utilise bien mieux les réserves de lithium, et donc vous produisez au lieu des 40%, 90%, et vous perdez pas, vous gaspillez pas de lithium avec notre procédé.
Oui, et je crois que vous utilisez, vous consommez beaucoup moins d'eau que la méthode traditionnelle.
Alors, si vous voulez, les méthodes d'extraction d'aujourd'hui, ils peuvent utiliser, il y a plusieurs chiffres, mais en gros, 150 mètres cubes par tonne de lithium produit. Non, nous, on utilise environ 15 fois moins d'eau.
Oui.
Okay. Et si vous voulez, c'est le lithium dans la zone qui nous intéresse, c'est des régions très arides où il y a des populations où il n'y a pas d'eau fraîche, d'accord.
Oui,
donc
oui.
L'utilisation d'eau, c'est fondamental et c'est un critère qui va, à beaucoup des cas, la décision de faire ou pas une extraction de lithium sera faite par rapport à la consommation d'eau. Et en consommation d'eau et d'énergie, on est très bas. Et on est à la consommation la plus basse du marché d'extraction, si vous voulez.
Et donc, à vous entendre, il n'y a que vous, pour le moment, qui avez ce procédé. J'imagine qu'il est breveté.
Il est breveté. Notre procédé est breveté et l'extraction, on le fait avec un liquide qui nous est propre, qui s'appelle Flionex,
oui.
Et qui est breveté aussi. Donc notre procédé est unique dans cette façon d'extraire le lithium. Il y a d'autres manières de faire de l'extraction directe du lithium qui sont, à notre avis, moins efficaces. Mais on n'est pas les seuls à extraire de lithium, évidemment.
Bien sûr, oui, mais vous apportez en plus le fait de... En fait, vous allez pouvoir décarboner la mobilité quelque part.
C'est ça le but des, si vous voulez, des décarboner complètement la mobilité. Et en plus, il y a une caractéristique du marché du lithium, c'est que comme on veut produire de plus en plus des voitures électriques, on va avoir une différence entre l'offre et la demande, et si on ne trouve pas des manières plus efficaces de produire plus de lithium, il n'y en aura pas assez pour décarboner la mobilité dans les temps qu'on s'est fixé, par exemple, en Europe. Donc, il faut trouver comment augmenter la production mondiale du lithium, et on pense que notre technologie doit pouvoir aider à remplir cette différence entre l'offre et la demande qui va se produire dans les années à venir.
Et alors, il va falloir aussi que vous fassiez l'acquisition de gisements pour pouvoir extraire ce lithium.
Non. Si vous voulez, on propose notre technologie à des miniers, à des sociétés qui ont le gisement, qui ont des concessions, des salars en Amérique du Sud, surtout en Argentine, au Chili et en Bolivie. C'est là où il y a les triangles, ce qu'on appelle les triangles du lithium, les gros des réserves. Donc nous, on va apporter notre technologie et on va accompagner les sociétés minières pendant la phase des constructions des usines industrielles, et après on va participer à l'exploitation, à l'opération de ces usines pendant la période de production.
Très bien, d'accord.
Donc on n'est pas minier, fournisseur de technologies et de services.
Merci de le préciser. Alors, votre entreprise Adionix va être présente au village de la chimie. Pourquoi cette présence?
Parce que, si vous voulez, Alionix est une société française, donc nos bureaux sont aux Ulysses, au sud de Paris, on veut participer au village de la chimie. On est dans une période de croissance, on est en train de recruter, donc on s'intéresse à faire connaître Alionix auprès du public, mais auprès des jeunes diplômés, parce qu'on est dans une période où on recrute, et donc voilà, on veut être un peu plus connu de tout le monde dans le monde du lithium et de la chimie.
Très bien, donc j'ai bien noté en effet que vous recrutiez. Vous avez quelques offres d'emploi formulées, si vous voulez en profiter?
Et écoutez, on cherche pas mal de monde, mais on cherche des techniciens, mais des ingénieurs chimistes, et aussi on est en train de monter une équipe d'ingénierie, donc on cherche des personnes qui sont formées à l'ingénierie industrielle aussi, et on cherche aussi des gestionnaires d'affaires, des project managers. Et des gens spécialisés aussi dans les brevets. Donc, on a sur notre site internet alionix.com pas mal d'offres d'emploi ouvertes. Donc, on invite tout le monde à regarder notre site et voir s'il y a des choses qui peuvent les intéresser.
Voilà, vous avez devancé ma question. Vous avez donné le site alionix.com. Merci infiniment, Gabriel Tofani, pour votre témoignage et puis les valeurs environnementales déployées par Alionix. Et puis, bon salon, bon village de la chimie.
Parfait, merci. On y sera là vendredi et samedi à disposition pour toute autre question éventuelle. Merci beaucoup.
Voilà, Gilles Le Maire vous salue, bien évidemment. Au revoir, monsieur Tofani.
Au revoir.
Au revoir. Merci. Encore une petite pause et puis on se retrouve avec monsieur Pierre Charrier.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Je sais pas.
I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. I'm feverly. Help me, doctor, heal my pain. Cause I don't really want to marry Jane. Oh là là là, ici le problème était moi. Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner.
We'll keep it simple. Doctor. We'll keep it simple. Keep it simple, baby.
Emmurer nos émotions. Parfois, ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier.
Ooh la la la, from my Jimmy to my Jai. Everybody, everybody be saying. Just get to me, any medicine you give me, I'm taking.
Keep it simple, doctor. Keep it simple.
Keep it simple, le duo Mika Vianney. C'est notre spécial, Village de la Chimie qui se tiendra vendredi prochain, 10 février, samedi 11 février à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et je suis toujours en compagnie de partenaires exposants venus nous présenter leur activité. Parmi eux, Pierre Charrier, directeur général de Diverchim CDMO, vers qui je me tourne à présent. Alors, sous votre impulsion, monsieur Charrier, depuis 2017, Diverchim se redéploie emploi dans la fabrication de principes actifs à petite échelle, une stratégie payante qui, depuis, a permis à l'entreprise de bénéficier d'une forte croissance. Pouvez-vous peut-être nous retracer ce qui vous a amené à manager ainsi divers chimes et puis nous expliquer votre stratégie ?
Bien écoutez, merci, bonjour. Je voudrais d'abord rappeler ce que c'est que les principes actifs. Les principes actifs, ça sert l'élément essentiel du médicament, aussi bien pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi qu'on retrouve des principes actifs dans l'industrie cosmétique. Et finalement, fabriquer un médicament, c'est un petit peu comme ouvrir une boîte de Lego et d'avoir des briques de construction, et puis au fur et à mesure, suivre une recette. C'est un peu de la cuisine, comme ce qu'on a, comme le début de votre émission, et suivre une recette pour fabriquer une molécule de plus en plus complexe. Et c'est l'aboutissement, ça sera un principe actif qui sera ensuite formulé pour donner un comprimé, une gélule, un injectable et donc un médicament qui soignera les gens. Et l'objectif de la reprise de Diverchim en 2017, ça a été de se mettre, d'essayer d'apporter notre pierre à l'industrie pharmaceutique et de fabriquer des principes actifs sur un marché de niche, puisque nous sommes basés à Roissy, dans le Val d'Oise, sur un site qui n'est pas forcément un grand site industriel, mais nous faisons un petit peu d'industrie et nous fabriquons donc des petites quantités parce que nous sommes limités. Et donc fabriquer des médicaments, soit pour des principes actifs pour médicaments, soit des médicaments qui sont déjà commercialisés, donc des petits produits qui sont déjà commercialisés, ou alors des médicaments qui sont en phase clinique, qui deviendront potentiellement des futurs médicaments dans des thérapies très innovantes, en thérapie génique, en médecine nucléaire, en ARN messager, enfin donc un domaine assez passionnant et donc qui nous permet de nous développer, d'avoir une forte croissance depuis 5 ans et donc d'où une participation aussi au village de la chimie puisque nous recrutons dans les 2 ans, il faut qu'on essaye on a un plan pour essayer d'augmenter de plus de 20% nos effectifs. Comme Gilles Lemaire l'a mentionné, nous utilisons bien évidemment beaucoup d'alternants. Et pour nous, l'alternance, c'est une pré-embauche. Oui. Donc c'est le moyen de donner à des jeunes l'occasion de rentrer dans l'entreprise, de s'intégrer dans des équipes. Nous avons des travaux, tous nos travaux sont très collaboratifs. Puisque finalement à travers notre métier vous avez différents métiers de chimistes, des chimistes de synthèse donc qui vont construire les briques, des chimistes d'analyse qui vont analyser ce que l'on fabrique et vous savez que quand on prend un médicament notre objectif c'est de donner aux patients un médicament de très bonne qualité et donc on va s'intéresser surtout à la pureté de nos fabrications pour s'assurer d'éviter tout problème. Donc voilà, donc un métier qui est passionnant, on cherche des chimistes, on cherche des scientifiques, donc on a un niveau de connaissances relativement demandé qui est relativement important, puisqu'on recherche, on recrute, comme disait Gilles Lemaire, on recrute nous à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, puis au niveau technicien supérieur, puis beaucoup d'ingénieurs et de docteurs en chimie, donc des formations jusqu'à Bac plus 8.
Aujourd'hui, Diverchim, c'est combien de personnes ?
Aujourd'hui, c'est 60 personnes. D'accord. On est parti de 24, on est 60. J'espère bien être 80 d'ici peu de temps.
Voilà. Oui, écoutez, on vous le souhaite et je pense que votre activité est très très porteuse. Donc, vous ne devriez pas avoir de mal à recruter, sauf si c'est le cas en ce moment. Vous avez aussi des difficultés.
C'est difficile parce que, d'une part, je pense qu'il faut redonner le goût aux jeunes de s'intéresser à la science. Dans les sciences, la chimie est une science à la fois théorique, mais aussi pratique. C'est une science très très intéressante où on a besoin de qualité d'observation et de curiosité pour essayer de comprendre comment nos atomes, nos molécules s'organisent. Donc c'est toujours un métier fascinant, mais c'est vrai que dans la fabrication de principes actifs, nous sommes bien évidemment très exigeants et nous demandons des formations de plus en plus importantes. Donc l'un des moyens, c'est par l'alternance où nous prenons des jeunes qui ont un premier niveau théorique et pratique, mais que nous formons vraiment et que nous montons en puissance pour leur donner vraiment l'opportunité d'avoir un véritable métier, d'être des experts, des spécialistes dans leur métier et pouvoir s'accomplir. Alors on a la chance, si vous voulez, dans notre cas au sein de Divershim, c'est que c'est toujours, c'est ce que je dis à tous les jeunes qu'on recrute, nous fabriquons les médicaments d'aujourd'hui et de demain, donc il y a quand même un petit peu de valeur derrière cela pour pouvoir soigner les gens. Donc je pense qu'on essaye de les intéresser le plus possible à cette industrie et à ce métier.
Oui, depuis la crise sanitaire, c'est vrai que les métiers, enfin les jeunes cherchent du sens dans leur activité. Et vous le dites très justement, et Gilles Lemaire nous le dit à chaque année pour Village de la Chimie, les emplois qu'on trouve dans la chimie sont des emplois durables.
Ah, tout à fait, c'est voilà. Des emplois, nous, on mise sur quelqu'un, on mise pas sur un an, deux ans, on espère qu'il restera et on fait tout pour essayer de les garder, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu le cas de jeunes qu'on a recrutés, qu'on a très bien formés, et puis ben, après trois ans, quatre ans, c'est la vie, ils ont envie de bouger, ils ont des obligations personnelles, donc on est toujours en renouvellement, mais bien évidemment, on essaye de former des gens, puisqu'il y a un très gros travail de formation. Un jeune qui va rentrer chez nous, il sera vraiment en compétence dans son métier après un an, voire deux ans. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et on veut essayer de les garder le plus longtemps possible.
Alors, Pierre Charrier, vous vouliez profiter de votre passage à l'antenne pour nous parler des ruptures de médicaments à l'hôpital qui est aujourd'hui est une...
C'est un sujet, oui, sujet en effet, important. C'est un sujet très important, on en a entendu, et en fait la crise de la Covid a été un petit peu la partie émergée de l'iceberg, où on s'est aperçu que dans une pandémie, d'un seul coup, on était très tributaire de médicaments, notamment de médicaments d'urgence. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quand un Français ou une Française prenne un médicament, ce médicament, le principe actif, il vient essentiellement d'Asie, d'Inde ou de Chine, à plus de 80%. Donc on est finalement très dépendant et on a perdu un petit peu de souveraineté. Donc c'est pour ça que, sous l'impulsion du gouvernement qui a lancé des appels à projets, la société Divershim s'est engagée à réindustrialiser six petits médicaments d'urgence, hein, des curares et des anesthésiques. Donc c'est des médicaments qui sont essentiels quand une personne est mise sous coma artificiel. C'est très compliqué de mettre quelqu'un sous coma artificiel, oui, hein, puisqu'il faut le maintenir délicat. En vie et puis il faut l'endormir d'un Absolument. Côté. Donc c'est compliqué. Et là, il y a des médicaments d'urgence. Donc qui dit médicaments d'urgence dit souvent médicaments injectables. Et qui dit un médicament injectable dit souvent des petites quantités, d'où notre implication. Et donc, nous sommes très impliqués en ce moment pour réenregistrer des principes actifs de médicaments d'urgence et en espérant qu'ensuite, bon, on puisse aussi pouvoir les vendre en France. Parce que les vendre à l'étranger, je pense que j'aurai pas trop de soucis. Maintenant, faudra aussi qu'on puisse avoir un système de santé qui permette aux hôpitaux de se payer des médicaments français.
Oui, puisque depuis la crise, il est question de souveraineté industrielle. Donc, eh bien, écoutez, on vous souhaite également de réussir cet exploit. Peut-être que vous, ces volumes, j'ai cru comprendre que ce qui vous garantit de ne pas être ces petits volumes vous garantissent de ne pas être en concurrence directe, justement, avec les gros industriels.
Ben, c'est vrai que les grands médicaments, les grands industriels cherchent du volume pour remplir leurs grandes usines. Je citerai l'exemple du paracétamol ou de l'ibuprofène. Nous, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est sur des petits médicaments. Donc, en médecine nucléaire, on va faire quelques grammes de produits jusqu'à quelques centaines de kilos de produits. Donc, des médicaments de niche, mais qui sont essentiels et qui sont utilisés dans des toutes petites quantités. Donc, qui permettent d'avoir une vision mondiale de distribution et de fabrication et de distribution de ces médicaments.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, les hôpitaux français pourraient ne pas vous suivre
Écoutez, pour, les hôpitaux pour français sont sous pression budgétaire, sur des contraintes budgétaires. Donc, je pense qu'ils achètent leurs médicaments sur des appels d'offres et que à ces appels d'offres, des sociétés françaises ou européennes peuvent répondre, mais aussi des sociétés indiennes ou chinoises qui peuvent arriver avec des prix moins chers, avec des volontés de dumping, parce que finalement le marché français à l'échelle mondiale est un petit marché, donc pouvoir s'implanter. Et c'est le phénomène très dangereux que l'on connaît actuellement et que nos clients connaissent, c'est que avoir des productions en France, mais finalement ne pas vendre en France parce que une pression internationale, un libre-échange, une économie où finalement un laboratoire indien ou un laboratoire chinois peut venir via des filiales européennes ou françaises, peuvent venir alimenter le marché et d'un autre côté tuer notre industrie nationale.
Oui, bien sûr. Oui, il y a encore toute une stratégie.
Il y a encore du travail. Les Italiens sont en train de travailler dessus. Les Allemands prennent des mesures. On attend que la France puisse prendre aussi des mesures pour. C'est bien beau de dire réindustrialiser, mais ensuite il faudra aussi que les industriels puissent vendre leurs produits en France.
En tout cas, qu'ils fassent de la marge pour continuer à vivre.
Exactement.
Alors donc, nous avons bien retenu que vous avez 6 principes actifs qui sont en train de... Ils sont au point où
Ils sont en plein développement. C'est long de mettre un principe actif, de reprendre des synthèses. C'est 18 mois, donc ça fait plus d'un an qu'on travaille d'arrache-pied et on va voir le bout petit à petit.
Et vos prochains objectifs ensuite?
On va essayer de continuer. Donc il y a plein de petits produits, si vous voulez, dans les ruptures de médicaments. C'est vrai qu'il y a une explosion des ruptures, des pénuries de médicaments à l'hôpital depuis une quinzaine d'années. On est passé de quelques 60 à 80 ruptures par an à plus de 3000 ruptures aujourd'hui. Bien évidemment, dans les ruptures, il faut essayer de segmenter. Il y a des ruptures liées à différentes raisons, mais il peut y avoir une rupture liée au principe actif. Et souvent, ces ruptures sont faites parce que ce sont des petits produits qui n'intéressent plus les fabricants parce que des trop petits volumes. Et justement, là, nous, on a tout notre intérêt pour essayer de sélectionner ces produits et de les remettre sur le marché.
Merci infiniment, Pierre Charrier, pour cette présentation d'Iverchim. Et puis, nous retenons également que vous êtes en recherche vous proposez des offres d'emploi et que vous voudriez augmenter votre personnel de 20%.
Donc, exactement, des chimistes de synthèse et des chimistes d'analyse.
Donc, ces personnes doivent absolument aller au village de la chimie où vous serez présents.
Nous serons présents avec un stand et avec certains de nos salariés qui essaieront de représenter au mieux notre métier.
Merci infiniment.
Merci.
Alors, l'heure tourne et là, on marque vraiment une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Merci d'être resté avec nous pour cette spéciale Village de la Chimie, rythmée par la présence de plusieurs invités. Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France, Pierre Charrier, directeur général de Diverchim CDMO, Gabriel Tofani, président de Adionix, qui est intervenu par téléphone, Philippe Davadi, colonel de gendarmerie, directeur de l'enseignement et de la recherche du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Colonel Davadi, je vous laisse peut-être vous présenter, puis nous présenter le PJGN.
Oui, je vous remercie. Alors, merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui dans votre émission. Alors, qu'est-ce que le PJGN? Le PJGN, c'est le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et c'est une unité particulière de la gendarmerie qui est composée d'environ 600 personnes, des militaires de tous les statuts possibles en gendarmerie, des civils, des hommes, des femmes, des personnels de carrière, des personnels sous contrat, des alternants, des stagiaires également, puisque nous recrutons aussi bien des alternants que des stagiaires. Et le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale a 4 missions principales. La première, enfin sans ordre de priorité, mais la première qui vient à l'esprit, c'est tout d'abord l'expertise. C'est une expertise de haut niveau, aussi bien dans le domaine criminalistique, qui revient à analyser des éléments, quoi, des traces qui sont prélevées par les enquêteurs et qui sont envoyées au laboratoire, mais c'est également l'expertise dans le renseignement, c'est-à-dire comment, à partir d'une information, élaborer un renseignement qui est utile aux enquêteurs. Alors ce sont des experts de haut niveau, puisque la formation, lorsque nous recevons, enfin surtout lorsque l'Institut de recherche criminelle, qui a quand même une ancienneté de 30 ans, reçoit des personnes en son sein, quel que soit leur niveau universitaire, licence, master, doctorat, ils ont, si on peut dire, un espèce de parcours initiatique de 5 ans avant de pouvoir prétendre à être experts. Voilà, donc y compris le docteur, il faut qu'il commence.
Il faut qu'il recommence son.
Il faut qu'il fasse ses preuves.
Voilà. C'est ça.
Il a des connaissances universitaires, c'est très bien. Ben maintenant, il faut qu'il prouve qu'il puisse être un expert. Le service central de renseignement criminel, qui est l'autre unité du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, a moins d'ancienneté, mais se structure également de manière à avoir effectivement des professionnels de haut niveau. La deuxième mission du pôle judiciaire, c'est la projection opérationnelle. Alors la projection opérationnelle, c'est l'aide aux enquêteurs dans des affaires qui ne défraient pas l'actualité, mais également dans des affaires qui sont beaucoup plus médiatiques ou médiatisées. Vous vous souvenez de l'explosion de Lubrizol ?
Oui, absolument.
Alors,
oui.
Ben, ce sont des experts de l'Institut de recherche criminelle qui sont allés sur place pour analyser, pour procéder au relevé et analyser et déterminer l'origine de l'incendie. Vous avez également en mémoire l'explosion du port de Beyrouth.
Oui, bien sûr.
Pardon. Excusez-moi. Là aussi, l'Institut de recherche criminelle a envoyé des experts pour modéliser la scène en trois dimensions de manière à aider l'enquête. Et plus près de nous, c'est-à-dire que plus proche de nous dans le temps, l'an dernier, l'Institut de recherche criminelle a envoyé des experts en Ukraine pour identifier les causes de la mort de personnes qui ont été laissées sur le terrain, notamment à Boutcha, une fois que l'armée russe s'est repliée. Donc ça, c'est la deuxième grande mission. La troisième mission, c'est la recherche et l'innovation. Alors, ce n'est pas juste un mot, puisque la recherche et l'innovation s'est traduit au pôle judiciaire par le dépôt de 6 brevets.
Voilà,
donc un brevet sur un laboratoire ADN mobile, un sur un écouvillon de prélèvement de l'ADN, un sur un automate de traitement de l'ADN, un sur un système d'extraction de l'ADN à partir des ossements humains, un cinquième sur une pompe pour prélever les odeurs et un sixième sur un logiciel qui permet de déterminer depuis combien de temps une flaque de sang a été déposée sur un support non poreux. Donc vous le voyez, nous avons des experts qui travaillent dans tous les domaines. Et la dernière mission du pôle judiciaire, c'est un peu long, veuillez m'en excuser,
c'est la
formation.
Oui.
Donc nous avons développé des formations, des diplômes universitaires avec l'université de Cergy-Pontoise. Et là maintenant, cette année, nous lançons quelque chose, une autre formation qui est un MBA. Dédié à la science forensique, qui est la science de l'analyse de la trace, donc un MBA qui ouvrira ses portes en septembre prochain, en septembre 2023, à Pontoise, dans les locaux du pôle judiciaire, qui c'est une formation ouverte à des cadres dirigeants qui ont déjà une dizaine d'années d'expérience professionnelle minimum, qui durera 18 semaines, qui sera répartie sur 18 mois, et qui s'intéresse à toutes les professions qui mènent des enquêtes, quelle que soit la nature de l'enquête. Donc l'enquête judiciaire, donc ça s'adresse bien évidemment aux forces de l'ordre, aux magistrats, aux avocats, aux enquêteurs privés ou aux agents de recherche privés. Mais ça s'adresse également aux journalistes qui font des enquêtes journalistiques. Ça s'adresse également aux entreprises qui mènent des enquêtes internes. En fait, toute personne toute entreprise qui s'intéresse à l'enquête peut avoir un intérêt à envoyer un de ses cadres, un ou plusieurs de ses cadres, même suivre ce MBA forensique.
Ce MBA, donc là, quand vous nous dites que il est ouvert à des personnes comme des journalistes, c'est pour les sensibiliser sur l'importance de certaines actions au moment d'une enquête. Ou
c'est davantage pour donner à chaque professionnel une méthode d'analyse des traces. C'est-à-dire que même quand on fait une enquête journalistique, on part d'un fait qui a été porté à la connaissance du journaliste et ensuite, que fait-il? Que fait-il de ce point de départ? Comment l'exploite-t-il? Comment le développe-t-il? Donc en fait, c'est une enquête au sens propre. C'est-à-dire, j'ai un point de départ, je construis des hypothèses qui me semblent probables, et en confrontant toutes ces hypothèses à toutes les connaissances que j'ai acquises par ailleurs, je vais retenir celle qui est la plus plausible.
Très bien. Alors, un des points forts aussi du PJGN, c'est, vous ne l'avez pas encore cité, c'est la science forensique. Je vous laisse nous rappeler, puisque nous, ici, chez IDFM Radio, nous en avons déjà parlé plusieurs fois avec CYU, et puis j'avais eu le plaisir de pouvoir accueillir le général François Daoust. Rappelez-nous ce qu'est la science forensique, colonel.
Alors, la science forensique souffre de sa, si on peut dire, de sa vulgarisation dans les séries américaines.
Oui.
C'est-à-dire que si vous regardez, comme moi, les séries américaines, vous vous rendez compte que ben, vous avez une trace qui arrive au laboratoire et une heure après, vous avez déjà l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone de l'auteur. Bon, alors, ça, c'est... Est-ce que c'est du souhaitable ? Je sais même pas, ça. Mais bon, c'est un raccourci, voilà, un raccourci stylistique propre au scénariste et qui se comprend pour des contraintes matérielles. Maintenant, qu'est-ce que la science forensique ? Alors, la forensique a été redéfinie dernièrement, en 2021, par des universitaires et des praticiens d'un peu toutes les nationalités au monde, dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant, et ce qu'ils ont appelé eux-mêmes, la déclaration de Sydney. Alors, que dit la déclaration de Sydney ? Elle dit que la science forensique est l'étude des traces générées par des événements particuliers passés, singuliers ou multiples, soutenus par la démarche et la recherche scientifique. Ces traces constituent les vestiges, les témoins d'activités passées, comme la présence ou l'action d'un individu, et offrent une clé à leur explication. Si on veut résumer de manière beaucoup plus succincte, la science forensique, c'est la science qui a pour objet d'étude la trace. Quand quelqu'un fait quelque chose, il laisse toujours des traces de son activité. Ça peut être des traces orales, ça peut être des traces écrites, des traces matérielles, des traces immatérielles dans les systèmes de traitement automatisé de données. En fait, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous laissons une trace. La question est, ben, comment déceler ces traces, les prélever, les analyser, les stocker, et surtout, comment interpréter les résultats des analyses. Puisque, et là, c'est pour ça que je suis content d'être avec des chimistes, c'est-à-dire que dans l'analyse des traces, il y a également des processus qui mettent en œuvre la chimie. La révélation d'empreintes digitales nécessite des opérations que je qualifierais de chimiques, mais que les spécialistes ne m'en veuillent pas trop de cet abus de vocabulaire n'étant pas chimiste. Donc nous avons effectivement affaire à des nous faisons appel à des chimistes, à des produits chimiques, mais pas seulement. Et en fait, la forensique, c'est d'une manière générale effectivement l'étude d'une trace, quelle que soit sa trace, qu'elle soit microscopique, comme les quelques dizaines de nanogrammes d'ADN qui vous permettent d'obtenir un profil génétique, ou qu'elle soit macroscopique. Êtes-vous déjà allé à Athènes ?
Oui, absolument.
Que voyez-vous sur l'Acropole, sur la colline de l'Acropole ?
Ou alors là, vous me posez une colle.
Non, ben c'est simple, on voit les traces de la civilisation
oui,
grecque antique.
Bien sûr.
Et là, oui. On se rend compte que la trace, eh ben, c'est quelque chose de macroscopique, puisque le Parthénon et tout ce qu'on voit à côté, c'est quand même pas du microscopique.
Oui.
C'est que la forensique, qui a pour objet d'étude la trace, s'adresse à toutes les professions qui mènent une enquête. C'est-à-dire que nous cherchons également à établir des partenariats avec des musées, pourquoi les musées ? Parce que quand ils doivent acheter une œuvre, ben, il faut qu'ils prouvent qu'elle soit authentique, ou qu'elle est fausse, et donc ils vont chercher les traces d'authenticité ou au contraire les traces de falsification. Nous nous adressons également aux historiens, aux archéologues, aux médecins épidémiologistes, puisque faire une étude épidémiologiste, c'est un peu faire de la forensique. D'où vient la maladie ? Quelle est son origine ? Comment va-t-elle se propager ? Est-ce que les épidémies des siècles passés ont quelque chose à nous apprendre sur le développement d'une épidémie ? Voilà, donc
oui, c'est
une formation.
Le spectre est très large.
C'est un spectre très large. La formation intéresse plusieurs spécialistes, plusieurs corps de métier, et l'objectif, c'est qu'à la fin, la personne diplômée soit en mesure de gérer une équipe, non pas de spécialistes, mais également d'experts, sachant que lorsqu'il managera son équipe d'experts, ce n'est pas lui qui va expliquer aux experts comment travailler, puisque les experts le savent mieux que lui. Mais par contre, ce qui est attendu de ce manager, c'est de faire travailler ensemble toutes ces personnes, chacune qui sont expertes dans leur niveau, pour parvenir au meilleur résultat, quoi, au résultat le plus probable et le plus rapidement possible.
Oui, vous nous citez plusieurs activités, donc enfin qui sont en lien avec cette science forensique. Donc c'est là aussi où ça peut intéresser beaucoup de personnes qui peuvent être intéressés par votre activité, c'est-à-dire on va faire appel à des biologistes, vous l'avez dit, mais on va faire appel aussi à des photographes, à des c'est très vaste. C'est un vrai vivier d'emploi. C'est ce que je veux
alors,
dire.
Oui, la forensique est un véritable vivier d'emploi. Et en fait, ces personnes seront d'autant meilleures qu'elles auront été correctement formées. Donc c'est pour ça que alors, l'université de Cergy-Pontoise est en train de développer, de mettre sur pied son école des sciences forensiques, qui est une bonne chose, parce qu'actuellement, on se rend compte que des formations de sciences forensiques en langue française, eh bien, il y en a à Lausanne, en Suisse, ou il y en a au Canada, à l'Université de Québec, à Trois-Rivières, mais il n'y en a pas en France. Donc, l'université de Cergy-Pontoise investit ce créneau, tout le créneau des formations universitaires, donc licence, master, doctorat, donc ça prendra du temps, mais ils sont bien partis. Et nous, au pôle judiciaire, donc pourquoi nous proposons cette formation ? Parce que nous souhaitons accompagner le développement de la science forensique depuis la déclaration de Sydney, donc qu'il a vraiment formalisé. Nous souhaitons faire partager nos savoirs et nos savoir-faire qui sont reconnus internationalement. C'est-à-dire que c'est pas juste nous qui disons que nous sommes bons. Ce sont également les experts internationaux qui disent que nous sommes bons, puisque si nous n'étions pas bons, les Libanais ne nous auraient pas appelés.
Bien sûr.
Si nous n'étions pas bons, les Ukrainiens n'auraient pas fait appel aux experts français. Et nous allons proposer donc cette formation qui alliera aussi bien la science de haut niveau, puisque elle sera dispensée par des professeurs d'université, mais également par quelques-uns de nos experts du pôle judiciaire, avec une pratique d'excellence, puisque dans ce MBA, il n'y aura pas que de la théorie, il y aura également des mises en situation pratiques, avec également la participation à des exercices dirigés par le pôle judiciaire, au cours desquels les auditeurs seront partie prenante à l'exercice, l'objectif étant de leur faire toucher du doigt la complexité de la mise en œuvre de la science forensique. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de l'intervention de l'IRCGN en Ukraine à Boutcha. C'était une opération d'identification de victimes de catastrophes que l'Institut maîtrise depuis des années. Il est une référence mondiale en ce domaine. La particularité, là, c'est que c'était dans une zone de guerre.
Oui.
Et que régulièrement, les experts, quand ils étaient logés à Kiev, sont descendus dans les abris. Après, on a une deuxième mission qui est partie vers Kharkiv. Et là également, ils sont régulièrement descendus dans les abris parce que à cause des frappes de missiles. Donc, c'est la particularité, pardon, si l'on peut dire, du modèle gendarmerie, c'est-à-dire que comme nous sommes militaires, nous sommes déployables en tout lieu et en tout temps. Et ce que nous savons faire en France dans un laboratoire, nous savons le faire également en France dans un laboratoire mobile, d'où le brevet du laboratoire mobile d'analyse de l'ADN. Et nous sommes également capables de le faire dans des pays étrangers. Il y a déjà eu des
opérations. Sur le terrain, oui.
Sur le terrain, dans des conditions aussi bien désertiques, puisque l'identification des victimes de la catastrophe du crash d'Air Algérie au Mali, ce sont des experts de l'IRC qui sont partis, et dans des zones de guerre, des zones de conflit, puisque l'IRCG est parti l'an dernier en Ukraine identifier les victimes laissées sur le terrain.
Vous devez faire beaucoup de jaloux aux États-Unis, peut-être.
Alors effectivement, ce MBA fait des jaloux parce que, enfin fait des jaloux, peut-être pas.
Enfin, je vais
rester prudent.
Oui.
Ce MBA suscite l'intérêt de beaucoup de spécialistes de pays, notamment anglo-saxons, puisque effectivement, on aime bien, ou les anglo-saxons aiment bien dire qu'ils sont en pointe dans la forensique, ils ont des experts. D'ailleurs, ils inondent les télés françaises avec leur série Les Experts. Néanmoins, nous on le fait. C'est-à-dire que nous créons le premier MBA au monde dédié à la science forensique. C'est-à-dire que vous regardez des MBA, vous en avez de toutes les qui s'intéressent quasiment à toutes les matières. Pour l'instant, il n'y en a pas qui s'intéresse à la science forensique. Donc nous serons le premier MBA dédié à la science forensique au monde, ce qui est quand même notable. Et puis il faut le dire, parce que de toute façon, personne d'autre que nous ne le dira. Hein.
C'est ça, et qui va vous faire prendre certainement beaucoup d'avance sur les recherches à venir.
Alors ça sera effectivement un moyen de développer la science forensique, ça sera un moyen de développer le partenariat et la proximité de la gendarmerie avec les entreprises privées, puisque nous cherchons actuellement à la fois des auditeurs qui viennent d'entreprises privées, puisque ce MBA est ouvert tant aux officiers de gendarmerie qu'à des cadres civils, et nous cherchons également des entreprises qui accepteraient de nous accompagner, soit comme mécènes, soit comme partenaires. L'intérêt majeur, à mon avis, d'une entreprise de participer à ce MBA à nos côtés, ben c'est de voir comment la science forensique se développe, comment elle va se développer dans les années à venir, et donc d'anticiper les tendances du marché relatif à la science forensique.
Oui, parce que comme vous le dites, vous parlez des experts des séries télévisées, on voit ces méthodes qui sont à la pointe, on a l'impression que plus rien n'est à trouver, mais en réalité, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Ah oui, il y a encore énormément de choses à faire. La science présente cet intérêt qu'on n'a jamais fini de l'explorer. Si on prend l'ADN, on pense que ça y est, l'ADN maintenant c'est presque magique. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure, le portrait robot génétique dont on entend tellement parler. Pour l'instant, alors il faut savoir qu'on en est qu'à ses débuts. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables encore, avec l'ADN d'une personne, de dire précisément sa taille, son poids, la couleur de ses yeux, etc. Son origine ethno-géographique. Puisque lors des essais qui ont été faits au pôle judiciaire, vous avez une personne qui a accepté de donner son ADN, et son origine ethno-géographique ressortait de la manière suivante: 60% caucasien, 40% asiatique. Et donc ma question favorite, c'est: quelle tête a cette personne ?
Bien voilà. Sûr.
D'où l'intérêt également d'avoir dans ce MBA forensique toute une partie qui sera dédiée à l'interprétation des résultats, puisque j'aurai des résultats de mon expertise ADN, de mon expertise chimique, de mon expertise biométrique, etc. Comment je les interprète, comment je mets tous ces résultats ensemble de manière à avoir le résultat, à proposer aux enquêteurs une piste qui est la plus plausible possible.
Où aura-t-il lieu ce MBA ?
Alors, la gendarmerie recherche la proximité. Donc, ce MBA qui est porté par le PJGN, qui a le soutien également de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, tous les cours de ce MBA auront lieu à Pontoise, dans les locaux du PJGN. Donc, ça sera une formation locale. Nous avons fait le choix de rester à Pontoise pour participer autant que nous le pouvions au développement de l'écosystème scientifique et entrepreneurial. Comme j'ai dit, si des entreprises veulent s'associer à ce MBA. Donc, il aura lieu dans le Val d'Oise, dans nos locaux à Pontoise, qui sont adaptés justement pour accueillir cette formation, qui sont également adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc, c'est un choix de la gendarmerie de s'implanter localement et de développer les partenariats locaux.
Et vous parliez tout à l'heure de mécénat, et donc c'est aussi l'opportunité pour ces entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôts comme tout mécène.
Oui, alors ça c'est encore en... Le dossier est en cours d'étude par la direction départementale des finances publiques. Nous leur avons déjà envoyé un premier dossier. Ils nous ont posé des questions pour compléter, pour avoir la meilleure appréciation possible. Nous leur avons répondu et nous attendons maintenant la décision de la direction départementale des finances publiques. L'objectif, effectivement, est de pouvoir permettre aux entreprises qui s'engagent à nos côtés de bénéficier de réductions d'impôts en respectant bien évidemment le cadre légal.
Très bien. Et si donc des auditeurs, auditrices qui sont qui veulent être partenaires au mécène nous écoutent, eh bien, ils sont les bienvenus au PJGN.
Oui,
on l'a compris.
C'est cela.
Donc le PJGN sera présent, enfin le MBA sera présent au stand E41 du Salon de la Chimie, et vous espérez avoir beaucoup de succès, j'imagine.
Oui. Nous souhaitons beaucoup de visites, beaucoup de contacts avec de futurs auditeurs, beaucoup de contacts avec des entreprises, sachant que le partenariat avec les entreprises n'est pas figé, c'est-à-dire que tout est envisageable.
C'est ça.
Là, actuellement, nous avons déjà un partenariat avec l'entreprise Olvid, qui est une entreprise française de messagerie sécurisée. Bon, ben Olvid nous donne l'autorisation d'utiliser une quarantaine de licences, donc pour l'équipe enseignante et pour les auditeurs du MBA, de manière à pouvoir échanger entre nous à partir de la rentrée de manière totalement sécurisée. Voilà, donc tout est envisageable à partir du moment où les deux parties, aussi bien l'entreprise que nous, MBA, tombons d'accord sur
absolument
la nature du partenariat.
Oui, c'est un partenariat gagnant-gagnant.
C'est cela.
Absolument. Merci beaucoup, colonel Davadi, pour la clarté de vos explications. Et nous retiendrons que vous recherchez des auditeurs et des partenaires pour ce MBA forensique. Et puis aussi, nous retiendrons la motivation qui vous caractérise et qui semble être un trait commun aux différents acteurs du PJGN.
Merci.
Alors, s'il faut retenir aussi une constante dans les propos de chacun, c'est que les perspectives d'emploi dans la branche chimie et en Île-de-France sont prometteuses, Gilles Lemaire, on peut dire ça ?
Oui, absolument. Et j'ai envie de dire que, en écoutant Pierre Charrier de Duverchim, Gabriel Tofani d'Adionix ou le colonel Davadi, oui, pardonnez-moi. On se rend compte que l'importance et l'apport de la chimie dans la vie quotidienne et dans le réel, et toutes ces structures qui travaillent dans un esprit extrêmement positif dans l'intérêt de tous, sont en recherche de jeunes à tous les niveaux. Et c'est clair que ce qu'évoquait Pierre Charrier, la nécessité de redonner aux jeunes le goût des sciences,
absolument,
est quelque chose de tout à fait déterminant. Et c'est d'ailleurs, je veux le rappeler, la vocation initiale du village de la chimie.
Alors l'émission arrive à sa fin dans quelques minutes. J'ai l'habitude de redonner la parole à mes invités pour un mot de conclusion. Je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Charrier.
Écoutez, on vient de parler de la science et encore une fois, je pense que tous les intervenants sont assez passionnés par leur métier et on a la chance chez Diverchim d'être vraiment passionnés. Je vais terminer par une boutade parce qu'on parle en ce moment de la retraite, de l'allongement du travail et je vous dirais que plus on est passionné, plus le temps passe vite, et je dirais que quand on est dans un métier, et pour les jeunes, ce qui est important, c'est d'être passionné, d'être engagé dans leur métier. Je pense que à travers la chimie en général, la chimie pharmaceutique, particulièrement dans mon cas, c'est un métier passionnant et on voit pas les années passer.
Oui, voilà. C'est ça.
Un message d'espoir par rapport au contexte général.
Ce qui se passe aujourd'hui, oui. Et c'est vrai que quand on fait un métier passionnant, on n'a pas l'impression de travailler surtout. Voilà, c'est le grand secret.
Je vous confirme.
Alors, tout à l'heure, vous disiez aussi qu'il fallait redonner le goût de la chimie aux jeunes parce que ça ne fait pas assez rêver les jeunes.
Vous savez, la chimie, on l'a souvent caractérisée pendant pas mal d'années, c'est dangereux, c'est polluant, et c'est vrai que maintenant, je dirais que les industriels engagés dans notre métier ont des priorités en termes de sécurité, des priorités en termes d'hygiène, en termes d'environnement. C'est en fait notre ADN.
Oui.
Et on peut pas... on a besoin de la chimie, on trouve de la chimie partout, et donc c'est une responsabilité des industriels, des enseignants pour donner le goût à la chimie et faire de la chimie dans des conditions propres, dans des conditions d'hygiène, de respect de l'environnement. J'ai tendance à prendre un peu l'exemple de la Suisse, qui la chimie fine suisse est très développée. Elle est même presque plus développée que la chimie française, alors que la Suisse est quand même un petit pays. Puis on a l'image de la Suisse avec ses montagnes et ses prés. Et à côté de ça, en chimie, ils font de la chimie très pointue, qui est une chimie potentiellement dangereuse, qui est une chimie qu'il faut contrôler de façon extrême, mais ils savent le faire et on sait le faire. Donc on peut faire de la chimie dans des bonnes conditions.
Merci Pierre Charrier, merci d'avoir été notre invité. Merci. Colonel Davadi, un mot de conclusion.
Alors, je pense que nous sommes à un moment de l'histoire des sciences qui est, alors vous allez peut-être me trouver excessif, mais qui est unique. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train d'assister en direct à la naissance d'une science, à la véritable éclosion d'une science, ce qui est la science forensique. Mmh. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'existait pas avant, mais elle était davantage, on la voyait davantage sous la forme de criminalistique, donc un ensemble de techniques. Et là, elle est en train de se formaliser en tant que science à part entière, avec un paradigme particulier, avec une façon de raisonner qui est tout à fait particulière, puisqu'on raisonne en forensique, on raisonne par abduction, un peu comme le médecin, parce qu'on travaille sur des traces qui sont uniques. On travaille sur des spécimens et jamais sur des échantillons. De même que quand vous allez consulter un médecin, chaque patient est unique. Vous pouvez avoir la même pathologie, ça ne va pas forcément se manifester de la même manière et le traitement ne sera pas forcément le même. Donc c'est une science qui a trait à quelque chose, qui a un objet d'étude qui est toujours unique, Et là, actuellement, nous avons la chance d'assister
à cette éclosion.
Et donc, tous ceux qui sont passionnés par la science, par la naissance d'une science, je les invite à venir nous rejoindre pour une aventure qui sera passionnante.
Merci beaucoup, colonel Davadi. J'espère que votre appel sera entendu. Gilles Lemaire, vous avez une minute pour nous faire un mot de conclusion.
Oui, alors une minute, c'est tout à fait suffisant. En écoutant nos invités, vos invités, Jacqueline, ce matin, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit pour parler de nos métiers. C'est l'innovation et la sécurité.
Oui.
L'innovation, c'est clair que les activités qui vous ont été présentées, tant par Gabriel Tofani que Pierre Charrier ou le colonel Davadi, montrent que on est en perpétuelle réflexion pour améliorer les process et faire progresser la connaissance. Et puis la sécurité, ça c'est tout à fait majeur. C'est clair qu'il n'y a plus de chimie sans sécurité. Absolue.
Merci infiniment Gilles Lemaire. Je vous presse parce que dans deux minutes c'est la fin de l'émission. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités de l'économie en direct. Merci pour toute cette énergie en faveur de l'emploi des jeunes et de l'alternance. Vos entreprises et institutions seront présentes au village de la chimie qui se tiendra ce vendredi 10 février, samedi 11 février à la Cité des sciences et de l'industrie. Qu'il est encore temps de s'inscrire si vous ne l'avez pas fait et qu'il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous incontournable en lien direct avec les défis du 21e siècle. Merci Francky pour la technique. Merci Alain d'avoir été à nos côtés. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast se retrouvera un peu plus tard sur le site de radioidfm.fr. À 11h, Christophe Gravreau présentera son émission Balade musicale. Vendredi, j'accueillerai d'autres experts, mais de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et le thème en sera les aides énergie mises en place par le gouvernement pour faire face à l'augmentation des coûts pour les entreprises. À vendredi, d'ici là, bonne semaine et prenez soin, grand soin de vous.